Bâtisseur d'église, présenté par le père Luc Dangean, avec la complicité du père Lucien Lachiezeré. Bâtisseur d'église, la découverte de figures emblématiques de notre église à travers les siècles.
Bonjour Lucien.
Bonjour Luc, bonjour à toutes et à tous.
Alors nous avons parlé assez longuement du modernisme, avec toutes les problématiques qui s'y rattachent, et nous en étions à parler du clergé,
oui,
et sa manière de se situer dans cette crise.
Oui, parce que, inévitablement, l'attitude du clergé a des incidences sur l'attitude de l'ensemble des chrétiens, et peut-être même l'inverse aussi, d'ailleurs, l'attitude de la population chrétienne peut avoir une incidence sur les prêtres, mais c'est plutôt dans l'autre sens, parce que à ce moment-là, c'est une période où le prêtre est un homme encore qu'on pourrait appeler d'influence.
Alors, il y a quand même des prêtres qui sont aussi touchés par l'engagement des chrétiens,
oui,
qui se laissent aussi interroger.
C'est sûr. Alors, je voudrais évoquer quelques noms plus connus de prêtres qui se détachent. Il y en a un premier, c'est l'abbé Lemire. L'abbé Lemire a commencé, je dirais, son parcours de prêtre en étant fortement conservateur. Mais ses lectures, ses réflexions, l'évolution de la situation française, de la situation de l'Église, tout cela, et puis ses contacts aussi avec les pays de mission, tout cela l'amène au désir très fort de réconcilier l'Église avec la société moderne et avec le peuple. Alors, il va en 1893 se présenter comme député. Il est élu au second tour grâce au suffrage des milieux populaires. C'est le premier prêtre démocrate qui entre à la Chambre sous la Troisième République. Parce qu'il y avait eu des prêtres et surtout des évêques qui étaient députés, mais sous les précédents régimes. Il y en avait eu sous Napoléon, il y en avait eu sous la Restauration, sous Louis-Philippe, sous Napoléon III. Mais sous la République, c'est la première fois qu'un prêtre entre à la Chambre et puis sans être forcément de l'opposition. Donc cet abbé Lemire va avoir une action importante. Il ne veut pas, d'ailleurs, apparaître comme le chef d'un parti catholique. Il est opposé à l'idée d'un parti catholique. Il voudrait un certain nombre de réformes, mais indépendamment, je dirais, du fait qu'il est catholique et qu'il est prêtre. C'est un homme, d'ailleurs, qui a aussi des activités non seulement politiques, mais sociales. À Hasbrouck, dont il est originaire, il lance les jardins ouvriers, des jardins qui sont communs à plusieurs bâtiments où logent les ouvriers et que les ouvriers prennent en charge. Il est associé à toutes les initiatives sociales en matière de législation, que ce soit pour la famille, que ce soit pour la démocratie. Alors, pour les catholiques intransigeants ou intransigeantistes, c'est une cible. Il va être violemment attaqué par le chanoine de Lassus, qui est le propriétaire de la semaine religieuse de Cambrai. Et ses ennemis l'appellent l'aumônier du bloc. Le bloc, c'est le bloc républicain anticlérical. Alors, il se trouve qu'en 1910, donc un peu avant la guerre de 14, il devra, pour se représenter, s'affronter avec un candidat catholique, mais conservateur. Et en 1914, malgré l'interdiction épiscopale de se présenter encore une fois à la législative, il se présente à nouveau. Et le Monseigneur Charot, l'évêque du nouveau diocèse de Lille, le frappe de suspense. Cependant, il est réélu avec la voix des catholiques, enfin de certains catholiques. Il devient également maire d'Hasbrouck. Et c'est le pape Benoît XV qui, en 1916, a demandé à l'évêque de Lille de lever la sentence de suspense. Et le père, l'abbé Lemire, mourra en 1928. C'est une figure incontestable de l'Église de cette époque. Alors, il est rejoint par un autre prêtre député en 1897, qui est aussi démocrate chrétien, l'abbé Guéroux, très actif à la Chambre, estimé pour son éloquence, pour son sens politique. Il s'efforce d'établir de bons rapports entre l'Église et l'État, ce qui n'est pas évident dans ces années-là. Mais dans des émissions où l'on a essayé de reconstituer, d'après des archives, les débats sur la séparation de l'Église et de l'État, on voit un peu l'abbé Lemire, mais on voit surtout l'abbé Guéroux, dont les interventions sont loin d'être quelconques. Même s'il n'était pas satisfait du climat, bien sûr, parce que le climat était très tendu. Il y a aussi l'abbé Paul Six qui lance une revue mensuelle, La démocratie chrétienne. Et alors donc, on voit qu'un certain nombre de prêtres entrent dans ce courant. Et ça va marquer, les milieux cléricaux. Moi, quand j'étais au séminaire, dans les années 50, on me parlait de certains prêtres. Celui-là, c'est un abbé démocrate, et celui-là, c'est un abbé d'Action française. Donc, c'était loin d'être éteint. Alors, ces abbés démocrates, qui se sentent le vent en poupe, vont réunir des congrès où il se dit des choses très très intéressantes qui aujourd'hui nous étonnent par leur justesse, en particulier ce souci de ne pas rester enfermé dans les limites de la sacristie ou de l'Église, ce qui était un peu le slogan de la laïcité 1905. Même ceux qui n'étaient pas vraiment anti-religieux disaient « le curé à la sacristie à l'église, le maire à la mairie, l'instituteur à l'école ». Mais eux, ils pensent que l'église ne se résume pas à la célébration de la messe, à la prédication ou au catéchisme. Il y a véritablement un souci missionnaire. Il y a évidemment aussi l'impact des questions théologiques et intellectuelles que j'ai expliquées dans une précédente émission liées au modernisme. Alors, certains évêques sont très attentifs à ce mouvement. Le vicaire général de Reims va présider le premier congrès des prêtres de Reims, ensuite il y aura celui de Bourges, et il y a le cardinal Langénieux, l'évêque de Fréjus, Monseigneur Mignot, qui ensuite sera nommé à Albi, Il pensait se retrouver l'année suivante, puisque c'était en 1896. En fait, ils ne se retrouveront que en 1900. Ils se retrouveront à Bourges. Alors, il y a quand même, il faut le dire, dans l'épiscopat français, beaucoup de gens opposés à ce courant. Ce qui fait d'ailleurs que Léon XIII, qui ne veut pas non plus désavouer l'épiscopat dans son ensemble, se contentera d'envoyer sa bénédiction. Il n'enverra pas de message. Mais on est un peu à la veille de 1914, mais il y a des discours, des interventions marquantes qui vont être mises en veilleuse à cause de la guerre, à cause d'un certain nombre d'autres problèmes, à cause aussi d'une forte montée de l'action française, aussi bien chez les laïcs que chez les prêtres.